Commentaire thématique sur « Dieu crée un homme et une femme », Genèse 2.4o. L'Éternel Dieu, la terre et l'homme, V. 4a. C'est à partir du verset 4, Dieu prend le nom d'Éternel Dieu, un nom de relation avec l'homme. Il est le même, tout en agissant et gouvernant dans le temps. Il prend soin de la terre et entretient la vie végétale par une vapeur montant du sol béni. Plus tard la bénédiction viendra du ciel, de la pluie des cieux, 2:11. Puis il place l'homme qu'il a formé dans le jardin d'Éden. Le verset 7 met en évidence à la fois la petitesse et la grandeur de l'homme, poussière et cendre, comme le dira Abraham en Genèse 18:27. Le premier homme est tiré de la terre, poussière, 1 Corinthiens 15:47. Cette pensée entre dans la louange du psalmiste, PS 103, 14, et doit s'inscrire dans celle de tout racheté. Quel contraste avec le second homme, venu du ciel, mais qui a bien voulu être fait à la ressemblance des hommes, il s'est anéanti, pour prendre en main leur cause et les sauver. Il n'est pas retourné à la poussière, il n'en avait pas été tiré, et ne méritait pas cette sentence. Il a laissé sa vie, puis il l'a reprise, son corps, glorieusement ressuscité, n'avait entre-temps connu ni la corruption, ni la poussière. Le souffle de Dieu, V, c'est dans cette première création, l'homme devient une âme vivante, V, 7, 1 Cor 15:45, par le souffle de Dieu cela le distingue de l'animal, et lui donne sa dignité et sa responsabilité, il est la race de Dieu, Actes 17:29. Cela reste son privilège malgré sa déchéance et son éloignement de Dieu, il lui reste toujours un chemin tracé pour se souvenir de son Créateur et revenir. Le chrétien, lui, reçoit comme les disciples au soir de la résurrection, le souffle de Dieu, l'Esprit de Christ ressuscité. Il devient une nouvelle création, 2 Cor 5:17, car Christ est un esprit vivifiant, il donne la vie éternelle. L'assemblée, peuple de Dieu actuel, est formée depuis la Pentecôte par le souffle vital du Saint-Esprit, Actes 2, 2. Le peuple futur, Israël, moralement restauré, connaîtra par ce même souffle divin une merveilleuse résurrection nationale, Ézéchiel 36:24o. 37, 5. Éden, V. 8 à 14 Dieu plante un jardin de délices pour le bien-être de sa créature, du côté de l'Orient, donc du soleil levant. C'est de là qu'un jour, l'homme devenu pécheur verra venir à lui l'Orient d'en haut comme sauveur, Luc 1, 78. Au milieu du jardin, Dieu fait croître l'arbre de vie, il place aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Adam ne doit pas manger. Après la chute d'Adam, le chemin de l'arbre de vie sera fermé dans l'Éden terrestre, pour que l'homme ne soit pas à la fois pécheur et immortel. En Proverbe 3:18, la sagesse est comparée à un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et qui la tient ferme et rendue bienheureux. Christ est la vraie sagesse de Dieu, il est cet arbre de vie. Dans le paradis céleste, on retrouve l'arbre de vie. Il offre son fruit béni au vainqueur, Apoc 2, 7, 22, 2. Le fleuve d'eau vive, V, 10 à 14 d'Éden sort un fleuve qui se divise en quatre rivières. Deux sont connus et situent bien le premier séjour de l'homme sur la terre, deux ont disparu et sont symboliquement présentés pour notre enseignement. Ces quatre courants d'eau, littéralement quatre têtes, sont une figure de la grâce divine qui s'étend vers le monde entier, pour une bénédiction universelle, le Pishon coule vers le pays de l'or. Il symbolise la grâce fondée sur la justice divine. Le gui entoure le pays de Cush, en hébreu, noir, donc la lointaine Éthiopie. Nous pouvons y voir l'étendue de la grâce de Dieu. Idée qu'elle coule vers Assur, 10:11, nation violente et ennemie de Dieu. N'est-ce pas une figure de la grâce de Dieu apparue à tous les hommes? L'Euphrate est le grand fleuve, 15:18, donc une provision pour tous. La grâce est aussi cela, mais l'eau du fleuve un jour tarira, Apoc 16:12. Demain le temps de la grâce aura sa fin, Dieu lui assignera un terme. Du trône de Dieu sortira un fleuve qui ne tarit pas, éclatant comme du cristal, d'une pureté inaltérable, Apoc 22, 1. Les rachetés s'abreuveront à ce fleuve des délices divines. Genèse. Chapitre 2:15-25 La création. 4. L'homme en Éden. Union d'Adam et Ève l'homme responsable, V. 15 à 17 Adam est placé en Éden pour cultiver le jardin, activité heureuse et exempte de peine au milieu d'une nature pleine de fraîcheur, mais il doit aussi le garder, il manquera de vigilance quand il laissera s'approcher le serpent rusé. Deux arbres sont mis en évidence en Éden, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils sont tous deux au milieu du jardin, 2, 9, 3, 3, donc près l'un de l'autre, semble-t-il, réellement et symboliquement. Adam peut goûter de tout arbre du jardin, l'arbre de vie peut permettre de perpétuer dans l'innocence une vie heureuse. Mais défense est faite de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette question du bien et du mal, Dieu seul peut la résoudre. Le devoir de l'homme est de faire confiance à Dieu et d'obéir à son commandement. N'est-il pas déjà abondamment béni en Éden? L'union de l'homme et de la femme, V. 18-25 au verset 19, l'homme est invité par Dieu à donner, dans un acte d'autorité, un nom à chaque être vivant. Adam s'en acquitte, mais parmi l'ensemble des êtres créés, aucun ne correspond à ses facultés supérieures, et ne répond aux besoins intimes de ses affections. Aussi reste-t-il seul et cela n'est pas bon. Alors Dieu va tirer de l'homme lui-même la femme qui pourra partager avec lui pensées, sentiments et activités. Elle sera une aide, pas une servante, sans doute créée à cause de l'homme, procédant de lui, n'ayant pas la même autorité, mais recevant la prérogative de donner naissance, 1 Cor 11:7-12. Pour la période chrétienne, l'Écriture enseignera qu'ils sont égaux dans le Seigneur. Formation de l'épouse, V. 21-23. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Elle est tirée non de la tête, autorité, ni du pied, servitude, mais d'une partie du corps qui symbolise tout à la fois la protection, sous le bras, et l'affection près du cœur. Telle devrait être sa vraie place comme aide de l'homme. Adam, à son réveil, la reçoit de la main de Dieu avec émerveillement et reconnaissance, « Celle-ci est os des mes os et chair de ma chair », V. 23. Il peut jouir dès cet instant d'une pleine satisfaction, dans une communion d'amour avec son épouse qui lui correspond en tout point. Il en est ainsi lorsqu'un croyant attend patiemment le moment de Dieu et dépend de lui pour s'unir à celle qu'il aimera d'un amour inconnu jusque-là, étant une seule chair avec elle. Ainsi l'homme s'attache à sa femme et mesure l'intimité du privilège de lui être joint. Jésus-Christ devra connaître le profond et douloureux sommeil de la mort, pour acquérir son épouse à la résurrection. Il se fera reconnaître de ses disciples par les marques des blessures inscrites dans sa chair, V. 21, Luc 24:39, 40, Jean 20:27. L'institution du mariage, V. 24. Le verset 24 pose les bases du mariage et en précise trois aspects qui resteront valables pour tous les temps, son aspect juridique, l'homme quittera, un nouveau foyer est créé, son aspect affectif, il attachera à sa femme son aspect physique, ils seront une seule chair, la véritable unité d'un couple est dans le respect de ces trois points, sinon rien n'est solide. Cette unité nouvelle du couple, une seule chair est liée, non pas à une identité de conformation mais à une complémentarité, l'un apportant à l'autre ce qui peut l'enrichir. Le vrai bonheur est dans l'union des cœurs et des corps sans le moindre égoïsme dans la période chrétienne, le croyant en trouvera sa source dans le Seigneur, 1 Cor 7:39. 11:11. Le verset 24 est cité trois fois dans le Nouveau Testament, et nous conduit dans ces passages à trois pensées capitales. 1 En Matthieu 19, 5, le Seigneur Jésus lui-même met en évidence les liens indissolubles du mariage, c'est une institution divine établie par Dieu dès le commencement, l'homme n'a pas le droit de l'accommoder à sa fantaisie, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce don que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Le Seigneur en reste là et ne fait ensuite que réfuter les arguties des hommes. 2 En 1 Corinthiens 6:16, la parole de Dieu condamne formellement toute relation sexuelle entre l'homme et la femme en dehors des liens du mariage, qu'elle soit unique, passagère ou durable. C'est un péché très grave parce qu'il souille le corps, temple du Saint-Esprit chez le croyant et parce que tout homme qui commet un tel acte méprise la volonté de Dieu. 3 En Éphésiens 5:31, l'Esprit Saint nous conduit à propos du mariage dans une intimité d'amour, mais aussi de soumission. Il place devant nous, exemple et pensée première de Dieu tout à la fois, le grand mystère de l'union de Christ et de l'Assemblée. L'homme quittera son père et sa mère, ses liens de dépendance ont leur fin dans le mariage. Cela doit être réalisé en pratique, bien que l'honneur dû à son père et à sa mère ne puisse jamais être mis en question jusqu'à la fin de la vie. Au verset 25, l'homme et la femme sont nus dans l'état d'innocence, et ils n'en ont pas honte. L'innocence et la nudité se dureront pas. Mais la transparence dans tous les détails et tous les moments de la vie d'un couple doit permettre aux époux de n'avoir jamais honte l'un de l'autre. Ceci est la condition du bonheur conjugal.